There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Avant de commencer l'épisode, nous voulions vous dire un immense merci pour votre fidélité et vos retours toujours si enthousiastes. Deux saisons, une quarantaine d'épisodes et un livre plus tard, nous voulons aller plus loin dans le projet de Mamie dans les orties. L'idée est simple, réaliser cet été un tour de France des mamies. Pour cela, nous avons besoin de vous. Nous lançons demain une campagne Ulule pour financer les déplacements pour réaliser cette saison 3. Vous trouverez le lien en description de cet épisode. Merci infiniment pour votre soutien. La moindre contribution permettra de reprendre nos interviews en physique. Et ça, on a très hâte. En attendant, on vous laisse avec Colette. Bonne écoute.
Je suis très fière de voter. Et j'espère que toutes les femmes auront rempli leur devoir.
Ressemblez à mes parents ? Ah non, pas du tout.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes.
Moulinex, libère la femme. Libère la femme. Libère la femme.
Qui on va fréquenter ? Les grands-mères ?
Colette est née en 1929 à Dampierre dans le Jura. Elle s'est confiée à sa petite fille Marielle, qui lui rend visite toutes les semaines depuis les périodes de confinement. De cet enregistrement, nous retenons surtout la grande complicité qui s'est créée entre ces deux générations de femmes. Mamie Coco raconte avec une très grande précision ses souvenirs de la guerre et surtout la relation avec les Allemands dans une France occupée. Elle nous rappelle que, même en temps de guerre, l'humanité prend toujours le dessus.
Bon, du coup, est-ce que tu te rappelles des questions ou pas ?
Oui, je me souviens qu'il y avait des questions qui m'intéressaient, d'autres auxquelles je n'aurais pas répondu.
Tu avais plutôt deux questions qui t'inspiraient sur les cinq.
Exactement. Plusieurs souvenirs me sont revenus. Tu veux que je te raconte le premier souvenir ? J'étais une petite fille. Je vivais dans un petit village. J'étais assez seule et j'occupais beaucoup mon temps à faire de la bicyclette. Voilà. Et un jour, faisant de la bicyclette, je suis tombée naturellement et je me suis bien amoché les genoux. Je suis revenue chez moi, le genou ensanglanté. Mon père n'était pas là, je ne sais pas du tout où il était. Ma mère travaillait, étant receveuse des postes, elle travaillait. Donc, il n'y avait personne pour s'occuper de moi. Mais nous habitions un rez-de-chaussée. Au premier étage, logeaient les Allemands, qui étaient donc en occupation. Et un Allemand me voit, le genou ensanglanté, et il est venu. Et il s'est occupé de moi. Et il m'a fait un magnifique pansement et il m'a soigné. Et il m'a soigné merveilleusement. Il a été très, 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 comment dirais-je, très humain, quoi, en somme. Si bien que quand je suis revenue après chez moi avec ce genou bandé, soigné et tout, mes parents, ma mère me dit « Mais qui t'a soigné ? Mais qu'est-ce que c'est ?» etc. Et je lui ai expliqué. Et voilà. Et pour moi, le souvenir de l'occupation, pour moi, eh bien, c'est un acte de générosité et d'humanité de cet homme. Et moi, c'est ce qui me reste. C'est ce qui me reste. Mais avoir 10 ans dans les années 40 et vivant à la campagne, ce n'est pas du tout comme aujourd'hui. J'estime que je devais avoir peut-être 7 ou 8 ans d'âge mental. Je n'étais pas très, très dégourdie, éveillée, tout ça. Mais les Allemands que j'ai rencontrés, c'était des êtres humains. C'est toujours comme ça que je les ai ressentis. Voilà, mais je me souviens également, parce que, puisque tu me parles de la guerre et des Allemands, qu'à un moment donné, il y a eu des prisonniers allemands et qu'il y avait en face de la poste une toute petite ferme avec des bêtes, bien sûr, des vaches, des chevaux, tout ça. Et les fermiers employaient un prisonnier allemand. Et ils étaient de bons Français, bien sûr, mais ils étaient très durs avec ce prisonnier allemand, très durs. Et je me souviens qu'il venait à la poste pour envoyer du courrier et ma mère lui parlait volontiers. Et je me souviens qu'elle lui raccommodait ses chaussettes. Et au moment de l'arrivée des Allemands, ma mère avait convoqué les quelques hommes notables qui restaient. Il devait être 4 ou 5, notamment le boulanger, déjà. Et puis, qui d'autre? Je ne me souviens pas.
Le maire,
je ne me rappelle pas. Et comme il y avait de l'argent à la poste, puisqu'elle était receveuse des postes, elle était responsable donc de l'argent qui était là, elle avait convoqué donc ces messieurs, je ne crois pas qu'il y ait eu de femmes, non, je n'ai pas l'impression. Et ils étaient allés dans un champ et ils avaient brûlé cet argent pour ne pas que les Allemands le trouvent à leur arrivée. Nous étions en pension et à cette époque, quand on allait en pension, on rentrait à la rentrée d'octobre, puis on ne revenait qu'à Noël, puis on ne revenait qu'à Pâques et après aux grandes vacances. Donc on était très peu chez nos parents. C'était comme ça.
Et ta maman, du coup, travaillait à la poste pendant toute la guerre?
Ah oui, oui, oui.
Et ton papa?
Alors, mon père était instituteur, mais il a été mobilisé. Et je me souviens qu'il est parti dans une ville qui s'appelle Ugine, qui doit être en Savoie, peut-être. Et puis, ça, c'est une partie. Combien de temps a-t-il été mobilisé? Je ne suis pas capable de le dire. Puis, quand il est revenu, il a fait partie d'un groupe de résistants. Nous sommes dans une région frontalière de la Suisse. Si bien qu'il était employé, utilisé, je ne sais pas comment dire, à faire passer des gens en Suisse. Mais je sais qu'il a été dénoncé. Il a fait de la prison à Dole comme résistant. Et puis, c'est très drôle parce qu'il avait comme gardien pénitentiaire un jeune homme qu'il a reconnu parce que mon père était donc instituteur et une année, il faisait passer le certificat d'études et une certaine année, il se promenait dans les rangs au moment de l'examen, c'était une dictée et alors il y avait un petit jeune homme qui faisait beaucoup de fautes et puis mon père, d'un air de rien comme ça, s'arrêtait près de lui et lui faisait remarquer, etc. Donc, en quelque sorte, il l'a un peu aidé, quoi. Et pour finir, ce garçon a eu son certificat d'études. Et voilà que c'était lui qui était devenu gardien de prison et qui a reconnu mon père. Et c'était très touchant, je trouve, comme anecdote, parce qu'ils ont eu des signes comme ça, quoi. Voilà. Voilà, oui, oui. La préfecture du Doubs, Besançon, une très grande ville. J'étais dans un pensionnat tenu par des religieuses. Et c'était des gens, des religieux, bon, on ne nous parlait pas, enfin, ou du moins, moi, là, j'étais vraiment, j'avais 10 ans, comme je t'ai dit, et j'étais pas du tout au fait de ce qui se passait. Absolument pas.
On ne vous disait pas, probablement dans l'idée de vous protéger. C'est-à-dire
que peut-être qu'on en parlait aux classes à des élèves un peu plus mûrs, quand même, je suppose. Mais je me souviens que le soir, après le dîner, on faisait des rondes dans la cour, parce qu'on faisait des rondes à cette époque-là, en se tenant par la main et on chantait. Et qu'est-ce qu'on chantait ? Des chants à la gloire de Pétain.
Ah oui ?
Ah oui, ah oui, oui, oui.
T'as des souvenirs de
Maréchal, nous voilà devant toi, le sauveur de la France, oui, oui, oui. Ah oui, 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 ah oui. Mm-hmm. Ben oui, mais voilà, hein. Oui.
Tu te souviens ce que tu pensais de Pétain à cette époque-là ?
Non, je ne savais pas bien qui c'était. J'étais pas très curieuse de tout ça. J'étais pleine de vie, mais pas du tout. D'abord, on ne nous en parlait pas beaucoup. On n'avait pas tellement d'informations. Je sais que lorsque la gare de Besançon a été bombardée, il y avait des sirènes, bien sûr, qui sonnaient. Alors on allait dans les caves, bien sûr. Et comme c'était l'hiver, on avait des engelures aux mains. Alors on descendait dans les caves et les bombes tombaient sur la gare. Et pendant ce temps-là, nous étions là et nous récitions le chapelet en faisant des marionnettes pour que le sang circule, tu vois. Pour que, voilà mon souvenir. C'est fou quand même de se souvenir de ce détail-là. Je me souviens que j'aimais beaucoup le dimanche parce que le dimanche il y avait une tasse de chocolat chaud, ça c'était très bon, j'aimais beaucoup ce chocolat le matin au petit déjeuner, mais autrement non, on mangeait mal, mais ça ne me privait pas tellement, non, pas tellement. Non. J'avais vu sur une revue qu'il était organisé un séjour. Alors là, c'était en Autriche. Un séjour de théâtre bilingue et on avait monté une pièce. Alors moi, je ne connaissais absolument personne, je n'étais pas majeure, ça veut dire que je n'avais pas 18 ans. Il fallait l'autorisation des parents. À cette époque-là, mes parents étaient très inquiets de me voir partir comme ça. Bon, j'ai toujours eu besoin de fuir quelque chose, quelque part, je ne sais pas. Donc je suis partie là-bas, j'ai pu rester peut-être 3 semaines, j'en sais rien. Je me suis trouvée avec des gens comme moi, des étudiants, et j'étais très jeune, il y avait des gens beaucoup plus âgés que moi. Et alors on a monté une pièce de théâtre, je me suis longtemps souvenue du nom, et là je l'ai perdue. Et alors on a monté la pièce, et je me souviens qu'on a donné une représentation à Paris, dans une salle près du pont de l'Alma.
Non, mais c'est incroyable, ils sont longs, tout bouclés.
Mes cheveux ?
Ah oui,
ils sont beaux. Ça, je suis très fière de mes cheveux. Mmh. C'est la seule chose que j'ai eue de beau.
Ensemble, Marielle et Mamie Coco ont ensuite pris le temps de regarder les photos de jeunesse de Colette. Au fil des albums, elles ont évoqué la passion de Colette pour son métier d'institutrice, ses années d'études à l'école normale et ses relations très riches avec ses élèves. Elles ont aussi parlé de voyages et notamment de la Roumanie, où Colette a découvert le communisme dans les années 50. Malheureusement, pour des raisons techniques liées à l'enregistrement, nous avons dû couper son récit ici.
Tout comme au bon vieux temps, quand vous aviez...
Je regrette de ne pas avoir interrogé davantage mes parents. Mais bien sûr,
à ce propos.
Je pense qu'on en est tous là.
Vous venez d'écouter un nouvel épisode de la saison 2 de Mamie dans les orties. Merci Marielle d'avoir partagé avec nous l'histoire de Colette. Pour nous soutenir, vous pouvez parler du podcast autour de vous, mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et nous suivre sur les réseaux sociaux @mamiepodcast. À bientôt.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.